avant de vous donner la réponse, que le monde dit arabo-islamique, le monde musulman, est en crise. Et je ne sais pas si on va vers la sécularisation, en toute rigueur, ou vers d'autres crispations de type religieux. Mais les indicateurs, si on voit un peu la société tunisienne, si on voit ce qu'on appelle le harak, c'est un terme arabe qui veut dire harak et pas hirak, parce qu'on se trompe, qui veut dire mouvement, qui n'a rien à voir avec l'activisme des frères musulmans des années 90. Bon, on a au Liban, où on ne veut pas de ce système un peu multiconfessionnel, on veut appliquer le modèle français avec la laïcité à la française. Quand on voit en Irak, quand on voit en Iran, avec la répression qui s'abat sur le peuple iranien, ces indicateurs montrent qu'on s'achemine plutôt, et bon, nous sommes tous des observateurs, vers la sécularisation, et que la mainmise ou la manipulation des dirigeants, des gouvernants de la religion doit arriver à son terme maintenant. Alors, est-ce qu'il faut passer par les fameux deux siècles ou plus? Je dis non, pour la simple raison que, mutatis mutandis, hein, vous savez, en Afrique, il y avait des contrées entières qui n'avaient pas le téléphone filaire. Et on passe directement au portable 4G, voire dans certains cas 5G. Donc, il en est de même aussi au niveau des idées. Il n'y a aucune raison de passer... Alors, est-ce un tort? C'est possible, parce qu'il vaut mieux ne peut-être pas trop accélérer les choses. Mais il n'y a aucune raison, dans une phase de mondialisation où tout s'accélère, où le monde se rétracte, de maintenir, parce que j'entends aussi cet argument, vous ne l'avez pas dit, il y a 7 siècles entre le christianisme et l'islam, il faut peut-être tenir compte au pire des 7 siècles, au mieux de 2 siècles. Ça n'a pas beaucoup de sens. Dans un premier cas, pour la simple raison qu'à un moment donné, il y avait un apogée civilisationnel dans les contextes islamiques que nous ne connaissions pas en Occident. Si je reviens, aller pour faire quelque chose de très caricatural et qui nous aide à aller vite, la ville de Cordoue était tapissée de velours, pas sur la totalité, mais sur une bonne partie, avec des réverbères et à bougies, pas des lampes à pétrole, puisqu'il n'y en avait pas, mais au moment où Paris était un bassin boueux au Londres, sans parler de l'architecture, etc. Après, il va y avoir la décadence, la régression terrible, et maintenant... Je pense qu'on s'achemine vers une sorte de civilisation humaine. S'il n'y avait pas le coup d'arrêt de ce que j'ai appelé tout à l'heure l'élan de foi, d'espérance, quand on a voulu se réapproprier l'héritage des Lumières en Orient, et notamment en Égypte, le Liban, les pays du Levant, en Syrie, nous n'aurions pas eu... Enfin, à un moment donné, nous avions eu, mais ça, nous nous posons la question pourquoi est-ce que ça n'a pas pris. Dans l'Égypte des années 30, je ne cesse de le répéter, il pouvait y avoir des débats simples. Vous savez, il y a quelqu'un qui s'appelle Ismail Adel Adham. Il a écrit un ouvrage qui était féru de Schopenhauer, qui était son maître à penser, dit-il, et il a écrit un ouvrage « Pourquoi je suis athée » en 1937. Et que penseriez-vous qu'en effet de lui? L'a-t-on bastonné, l'a-t-on décapité, l'a-t-on brûlé vif dans une cage, l'a-t-on emprisonné? Rien de tout cela. Au bout de quelques temps, un autre écrit un livre intitulé « Pourquoi je suis croyant ?» Et le débat dans l'Égypte des années 30 était par livre interposé. parce qu'on était dans l'Égypte de Taha Hussein, Ahmed Amin. Après, on aura Oum Kalthoum et puis toutes les artistes, les actrices de cinéma, parce qu'un travail d'émancipation a préparé cela. Qassem Amin, Mansour Fahmi, la fameuse Doria Shafir, Houda Sharawi, Sezana Barawi, toutes ces femmes ont participé à une véritable effervescence intellectuelle. Ça n'a pas pris pour des considérations aussi politiques. Ce n'est pas que le wahhabo-salafisme et les frères musulmans, c'est aussi la dictature, des choix qui ont tourné le dos aux promesses, promesses pour lesquelles les révolutions ont eu lieu. Voilà, alors madame, on est à la croisée des chemins, en toute rigueur et dans la froideur d'esprit, je dois vous répondre, je ne sais pas, nous ne savons pas, puisque nous sommes en train d'observer, mais le sentiment que j'ai, c'est qu'on s'achemine vers plutôt la sécularisation et probablement des choix de gouvernement de type laïque. Je ne sais pas, enfin, de fait, il y a une spécificité française. Et de nos jours, paraît-il, mais je n'ai pas vérifié, qu'il n'y a que très peu d'États, au sens onusien du terme, membres de l'Organisation des Nations Unies, qui ont adopté plus ou moins le modèle français, avec une laïcité stricte, si on peut l'appeler comme ça. Je ne suis pas sûr qu'il faille l'adjectiver ou lui accoler la moindre épithète. Ce serait le Mexique, l'Ouzbékistan, un autre État d'Asie centrale, parce que bon, parfois on se copie, le Kazakhstan et l'Albanie, peut-être la Bosnie aussi, parce qu'on pense que le modèle français est un modèle transmissible ailleurs. Mais ça, c'est maintenant. Mais comment ceci est venu ? Il y a une maturation qui a préparé à cela. On a commencé à être gagné dans le sillage des guerres dites de religion. J'ai eu l'occasion d'aller dans un musée, le musée du protestantisme dans le Tarn. Je ne m'appelle plus du lieu, mais c'est entre Castres et Mazamé. Donc ça, on est au cœur même de tout ce qu'on a pu connaître comme dragonnade, etc. Et dans ce musée, on retrace toutes les... Quand je dis querelle, c'est un doux euphémisme, toutes les frictions, tous les conflits à base religieuse. Et petit à petit, on veut trouver des solutions à ça, et on a pensé que la mainmise de l'Église, non pas que le christianisme comme religion soit à rejeter, et certains, mus par l'idéal laïque, on ne l'appelait même pas comme ça à l'époque, n'était pas athée, n'était pas contre la religion en tant que telle, mais était contre la mainmise de l'Église, disons du clergé. Et la réaction était plutôt de s'affranchir, de s'émanciper de cette mainmise. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je l'ai dit tout à fait la toute première fois, que le choix, si on était pinailleur, le choix même de laïc, qui donnera dans sa substantivation laïcité, n'est pas si laïc que ça, puisqu'on l'a pris de l'univers mental et théologique d'une partie des citoyens. Bon, c'est vrai qu'historiquement, ils étaient là, ils sont les plus nombreux, tout ce qu'on veut, mais il n'y a aucune raison de prendre la vision du monde d'une partie des citoyens et utiliser leur propre vocabulaire pour l'ériger comme le principe absolu, indépassable, pour la simple raison que dans l'Église catholique, et selon le droit canon, le jus canonicum, il y avait deux états fondamentaux, l'état clérical et l'état laïque. Et lorsque on est dans l'état laïque, pas au sens d'un état laïque au sens moderne de maintenant, c'est qu'on est baptisé, on fait partie du peuple de Dieu, on est croyant, on n'est pas païen, on n'est pas hérétique, on n'est pas juif, on n'est pas bouddhiste, on n'est pas musulman, on est chrétien. Chrétien, même catholique. On est dans l'état laïque, on n'est pas dans l'état clérical. Et quand il arrive, pour X raisons, qu'un prêtre soit défroqué, il va être réduit à l'état laïque. Donc, il passe de l'état clérical à l'état laïque. Et me semble-t-il, parce qu'on ne voulait pas aller trop fort, c'est ma compréhension qui est sujette à caution, on ne voulait pas aller un peu dans le conflit entre la France cléricale et la France anticléricale. D'abord, je ne suis pas sûr qu'on ait pu trouver une notion ou un mot, mais on ne voulait pas mettre, par exemple, l'athéisme comme la clé de voûte, comme la notion. Donc, comme l'intérêt des concepteurs de la laïcité, c'est de neutraliser en quelque sorte le clergé, ça ne les embêtait pas de dire que c'est un moindre mal que le fait d'avoir plutôt les laïcs, c'est le fait d'être dans un état laïque qui nous importe pour nous. Donc on a parlé de laïcité et c'est Émile Littré, dans son dictionnaire de 1871, et puis dans l'addendum de 1877, qui a parlé, dit-on, pour la première fois, construit le substantif laïcité du grec tardif laïkos, qui lui-même s'enracine dans le grec ancien laos, qui est une des trois dénominations du mot qui renvoie au peuple. Vous avez démos, ethnos et laos. Le démos, c'est le peuple ou la population dans la cité. L'ethnos, c'est le peuple, mais appréhendé d'un point de vue culturel, c'est l'ethnos, l'ensemble des caractéristiques culturelles, voire religieuses. Et le laos, c'est le bas-peuple. Le bas-peuple, ce n'est pas dépréciatif. C'est-à-dire le peuple comme masse unifiée en opposition au clerc, au chef, en quelque sorte. Et donc, on a pris cette notion de laïcité. Après, on connaît toutes les histoires du petit père Combe, même avant, Félicité de Lamennais, etc., pour essayer de trouver quand même des solutions. C'est moi qui fais de la spéculation comme ça et de la métapsychologie de bazar, c'était de dire on ne va pas encore crisper non seulement l'Église, mais surtout le reste de la population, et on ne va pas ériger l'athéisme comme doctrine d'État, mais quelque chose qui serait plutôt intermédiaire, ou moins drastique. Et donc, me semble-t-il, c'est comme ça qu'est venue la notion de... D'abord, comme notion, comme mot, une spécificité française qui n'avait aucun équivalent dans aucune autre langue européenne, et a fortiori, quand on dit « Ah, mais il n'y a pas la laïcité dans l'islam », tout simplement parce que les langues véhiculaires de la pensée théologique islamique ne connaissent pas l'équivalent de laïcité, ni l'ourdou, ni l'arabe, ni le turc, ni le persan n'ont l'équivalent de laïcité. Tout comme, d'ailleurs, ni l'espagnol, ni l'italien, ni l'anglais ou l'allemand n'ont l'équivalent de laïcité. À mon avis, le débat... parce que là, il faut toute l'histoire du 19e siècle sur ces questions-là. Entre Félicité de Lamennais jusqu'à Aristide Briand, le débat était entre ce qu'on appelle les deux Frances, la France cléricale et la France anticléricale. Et dans un souci d'apaisement, je ne vais pas vous dire des bêtises, c'est venu davantage du côté d'Aristide Briand de tenir à la notion, plus tard, parce qu'on est un peu à la, déjà dès la fin du 19e siècle, on, est pas, on se rapproche de 1905, parce que la genèse de tout cela, c'était déjà dès la fin du 19e siècle. C'est vous qui avez dit le mot, et c'est juste de ne pas crisper l'Église ni les croyants, ou c'est peut-être moi d'ailleurs, mais je sens que je me rende compte, mais je trouve que le mot est tout à fait juste, et donc c'est un souci d'apaisement, un souci, j'allais dire, d'intelligence, et un souci, le mot est à la mode maintenant, mais il faut se méfier des mots qu'on galvaude souvent, de bienveillance aussi, et à mon avis, on n'y avait pas pensé, les promoteurs, de cette notion qu'il faut plutôt parler de laïcité. Et encore une fois, à mon avis, c'est parce qu'on n'a pas su trouver autre chose et que l'athéisme ou l'incroyance était à la fois, c'était trop fort et ce n'était pas conforme à l'idée qu'on voulait, parce qu'on voulait simplement neutraliser la mainmise de l'Église au sens clérical. Voilà, alors j'étais en train de finir ma réponse fleuve pour vous. C'était qu'il n'y a pas eu l'équivalent donc, du mot laïcité dans les autres langues, toutes les autres langues, même en turc, parce qu'on a adopté le modèle français mais d'une manière très drastique, on l'a un peu turcisé ou turcisé, si je puis dire, le mot en disant laïclique. Et donc ça a donné l'idée qu'il vaut mieux, au lieu de chercher un équivalent dans les différentes langues, eh bien de l'arabiser, de le persaniser, de l'angliciser, etc., ou de l'hispaniser. Donc on parle de laïcita, laïciti, laïkia en arabe, au lieu de dire almania, qui renvoie dans un premier temps, ça commençait avec comme barbarisme l'équivalent de mondité, même pas mondanité. Quand on l'avait pris, quand on l'avait traduit, quand on a cru comprendre qu'il faut traduire le mot dans la langue arabe, ça a donné l'équivalent de mondité ou de scientisme, et ce n'était pas tout à fait proche de ce qu'on voulait. Quand on a traduit qu'est-ce que ça veut dire ce mot, on a dit, bon, vous savez, c'est le gouvernement de ceux qui n'ont ni foi ni loi. Et on l'a compris que c'est devenu la voyoucratie qui devait gouverner. En dehors de l'anecdote qui fait sourire, ça explique en partie pourquoi le concept n'a pas joui dans un premier temps. Je ne parle pas du cas algérien dont j'ai dit tout à l'heure que les oulémas demander que la loi fût appliquée, mais ailleurs, parce qu'on leur avait mal expliqué et on leur avait dit même que c'était pourvoyeur, que ce système était pourvoyeur d'athéisme. Et c'est vrai qu'au tournant du 19e, 20e siècle, on ne comprenait pas ailleurs aussi, pas que dans le monde arabo-musulman, comment peut-on gouverner sans des principes, et ces principes se trouvent être fournis, en tout cas, par les systèmes religieux aussi. Petit à petit, ben de nos jours, on a encore Monaco ou la Belgique, dans une certaine mesure, très très lâche, très soft, si vous m'utilisez, vous me pardonnez l'anglicisme, où le catholicisme est religion d'État. Et comme pour le cas l'islam religion d'État, je dis, moi j'ai jamais vu un État jeûner, prier, faire des génuflexions, aller à la mosquée, etc., je vois mal aussi l'État en train de célébrer l'Eucharistie et prendre l'hostie, etc. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on entend par religion d'État ? L'État est un cadre, j'ai dit tout à l'heure, qui stabilise les lois, qui a le monopole de la violence, légale, légitime, etc., et qui offre le cadre de l'exercice du pouvoir politique et l'exercice de la démocratie. ce sont les administrés, ce sont les citoyens qui, eux, peuvent avoir une religion ou pas, d'ailleurs. Il n'est de salut que lorsque on met de côté les considérations spirituelles et de foi. Et c'est malheureux parce que ce n'est pas en tout cas l'idée que nous nous faisons de la laïcité, qui ne doit pas avoir d'épaisseur idéologique, qui ne doit pas avoir de densité doctrinale. C'est un principe qui garantit le libre exercice de la foi. Et elle ne doit pas être en réalité gênée, ni cette jeune demoiselle de 20 ans, ni ta collègue, d'afficher. Alors tout le débat sur d'une manière ostentatoire, ostensible, visible, je ne sais trop quoi. Mais dans le cadre de la loi, que je sache, Monseigneur au petit maintenant, mais avant lui Monseigneur 23, lors de la Semaine Sainte, il y a toute la péniche qui traverse la Seine, et puis il y a la montée, le chemin de croix sur la butte Montmartre. En principe, ça ne doit gêner personne. Il y a l'autorisation du préfet, c'est vrai, qui est formelle, parce que je n'imagine pas le préfet ne pas l'autoriser, et elle a lieu. Je ne vois pas en quoi ça doit déranger les autres citoyens et les Parisiens. Voilà, il faut laisser un peu d'intelligence, et notamment l'intelligence du cœur. Alors, cher monsieur, pourquoi cela ont pu parler, etc. Oui, mais ça s'est fait dans le temps. C'est quand on voit Bruno Giordano, ce qui lui est arrivé, quand on voit même Voltaire, même Hugo, même avant. Donc, Voltaire a dû jouer aussi un peu aux fins stratèges. Il parle du Turc ou du fanatisme, etc., mais c'est pour attaquer l'Église. Alors, il dit qu'on est en 1443, quand on ajoute 1622 de l'Égir, c'est pour qu'on trouve 1765. Donc, ce sont des choses de cet ordre. Ça ne s'est pas fait facilement, ça s'est fait après les guerres de religion, ça s'est fait après des exécutions, des lynchages, le bûcher, etc. Et après, et heureusement, l'intelligence humaine aidant, ceux qui croient à la maturation de l'humanité. Alors, vous pouvez poser la question, mais pourquoi ça a émergé, l'essor a eu lieu en Europe ? Je vous promets que ça sera pour la foi d'après, parce que je ne me rappelle même pas du titre de la foi d'après, Stéphane. C'est laïcité et émancipation. Et là, ça sera... c'est fin janvier. Et ce que je voulais vous dire, c'est pourquoi ? Pourquoi ça émerge en Europe ? Et un certain Joseph Needham, il le dit d'abord pour la science, enfin la science moderne, pourquoi c'est en Europe et pas en Chine, et pourtant, avec l'empire du milieu, pourquoi c'est en Europe et pas dans les contextes islamiques, et pourtant, en ce qui concerne la science, il y a aussi une bonne contribution au corpus du savoir universel, et bien pour lui, c'est l'énigme, c'est quasiment même l'énigme absolue. À l'ère d'Enbic, comme on dit, les nanotechnologies, la biotechnologie, l'intelligence artificielle, le cognitivisme, ça, ce sont les répercussions ou les implications de ces avancées à la fois techniques et scientifiques, bien sûr, nous interrogent, nous interpellent. J'entends le Dalai Lama dire « Je n'exclus pas d'être réincarné en ordinateur » et que d'aucuns commencent à dire « On va flasher la conscience humaine ». Bon, ça, nous fait sourire par moments, mais pour certains, y travaillent les futurologues. Je ne parle pas des collapsologues qui disent que c'est la fin du monde bientôt, mais les futurologues travaillent pour ça. D'accord. En revanche, il n'en demeure pas moins que lorsqu'on est un groupe d'êtres humains dans un espace, donc on est dans la cité, il faut bien déterminer des règles de vie communes. Pour Montesquieu, c'est la chose la plus importante pour les hommes, c'est de trouver comment être gouverné et comment intérioriser l'adhésion à la loi. Or, la loi, est-ce que c'est ce qu'on appelle le droit naturel, etc., ou est-ce que c'est le droit qui est une émanation des textes révélés, ou est-ce que c'est une émanation rationnelle des hommes qui s'applique aux hommes pour le bien-être des hommes? Et ce qui a été fait par des hommes peut être défait par d'autres hommes. Le fait de raisonner comme ça, de gouverner comme ça, de trouver comment établir une coexistence pacifique des êtres humains dans un espace donné, et pourquoi pas à un moment donné sur toute la planète, voire dans les stations orbitales quand il s'agit de coloniser je ne sais trop quelle autre planète, pour certains y pensent, eh bien, c'est la notion même de ne pas imposer à autrui quelque chose auquel il n'adhère pas intimement, librement, ça a quelque chose à voir avec la laïcité, qui est la liberté de conscience, la liberté de croire, de ne pas croire, de pouvoir changer de croyance, de ne pas, là aussi, se prévaloir de sa propre métaphysique pour l'imposer à autrui, etc. À mon avis, cet acquis de la modernité continuera. Peut-être même qu'on découvrira des choses pour gouverner les hommes auxquels nous n'avons pas pensé maintenant, parce que ça reste toujours un point à l'horizon. La démocratie de Clisthène ou de Solon n'est pas la nôtre. Parce que pour la polis grecque, les métèques, les femmes et les esclaves ne votaient pas. Donc, voilà, ça avance. Alors j'ai dit, non sans un brin de provocation ou d'humour, qu'on ne peut pas dire que la France est que la laïcité est une exception en France, que le Concordat est une exception dans l'exception, et que l'islam est une exception dans l'exception dans l'exception. Parce que les départements concordataires ne rémunèrent pas les imams, ou l'enseignement n'est pas du même ordre que en ce qui concerne les rabbins, les curés et les pasteurs. Vous avez tout à fait raison, il y a des anomalies, si je puis dire, dans notre droit et même la loi fondamentale, non seulement avec le Concordat, mais aussi avec. Alors Mayotte, depuis 2011, est devenue plutôt un département, avant ça ne l'était pas. Il y a encore quelque chose qu'il faudrait revoir au niveau du droit, mais comme département français, c'est le droit positif, le nôtre, qui s'applique en principe. Mais je pense, mais là je le dis sans être sûr, qu'il y a même une notion d'un certain temps pour la transition. Et même en Guyane, il y a encore quelques spécificités qui ne sont pas du droit constitutionnel commun, si je puis dire. Il y a encore des spécificités dans les territoires d'outre-mer ou les départements d'outre-mer. Si on ajoute les anomalies du type que notre président de la République est aussi chanoine de Latran et que il y a même pas l'histoire du procureur et l'évêque de Monaco, il y a aussi le condominium, c'est-à-dire il est aussi co-souverain de la principauté d'Andorre. Ce sont quand même des petites anicroches ou des petites entailles la Constitution, dans notre loi fondamentale, qui proclame que la République est une et indivise, elle est laïque et sociale, c'est vrai. Alors, c'est toujours facile de se défausser sur le politique, mais il faut un courage politique pour pallier tout cela. à commencer par le Concordat. Je ne ramène pas tout à ma petite personne, mais récemment, dans un talk show avec Yves Tréhard du Figaro, qui me pose une question, je lui ai dit je ne suis pas pour que le Concordat perdure, mais dès lors qu'il est là, il vaut mieux que ça serve aussi, notamment en formant les imams. Parce qu'il n'y a aucune raison pour que les curés, les rabbins, les pasteurs puissent être formés sur des deniers publics, et pas ceux qui nous posent problème. Enfin, donc, à un moment donné, il faut trouver une solution, on en a une. Je n'ai pas eu le temps d'expliquer davantage mon idée, mais là aussi, il faut un courage politique des élus, enfin des responsables politiques mosellans ou alsaciens aussi. Ou à tout le moins de revoir carrément le statut du Concordat, mais là, il faut une révision de la Constitution, enfin toute une histoire. Donc, quand on connaît, c'est toujours facile de se défausser sur les politiques, je ne voudrais vraiment pas encore ajouter une couche, mais quand on connaît leur frilosité et leur pusillanimité sur ces questions-là, c'est parti pour un bon moment. À un moment donné, on a cru que c'est là, dans le rapport, pour ne pas dire le conflit, foi et raison, c'est la raison qui a triomphé. Et on parle même de raison raisonnante, instrumentale. Si je dis ça, c'est par la suite on s'était rendu compte de ses limites. Et donc, même si j'ai dit au début de mon exposé que quelqu'un comme Spinoza pensait fondamentalement que le fait de philosopher et de raisonner, c'est utile et c'est nécessaire, y compris pour l'intelligibilité de la foi. J'avais ajouté même pour l'État au niveau de sa conception, même de sa stabilité, etc. D'aucuns ont pensé que c'est finalement la raison qui a triomphé. Et le scientisme du XIXe siècle raillait les questions religieuses. Est-ce que dans l'arche de Noé, il y avait le tamanoir du Chili ou les marsupiaux d'Australie ? Vous n'y trouverez pas. Donc, est-ce que vous prétendez, vous qui croyez en la naissance miraculeuse du Christ dans le sein virginal de Marie, Au mieux, ce serait une parthénogenèse, et encore. Donc, on voulait montrer l'inanité des récits de facture mythique de la Sainte Écriture ou des Écritures Saintes. Bon. En réalité, ce débat foi et raison n'est pas nouveau. Vous avez évoqué les rationalistes des traditions religieuses, les mu'tazilites dans le contexte islamique, par la suite Albert le Grand ou l'Aquinat de Saint Thomas, même l'école de Salamanque, un Maïmonide pour la tradition juive, etc. Et même un Averroès. D'ailleurs, Averroès disait « S'il devait y avoir une quelconque contradiction entre les données révélées et la démonstration philosophique, c'est à la révélation de céder le pas devant la philosophie parce que la vérité ne contredit pas la vérité, mais l'accompagne et témoigne pour elle. » C'est dans le traité décisif. Bien. Alors, pour résumer mon propos, c'est qu'on parle maintenant de quatre phases. Il y avait d'abord le conflit, y compris durant les Lumières, entre foi et raison, ou entre science et religion, ou science et spiritualité. Puis à un moment donné, il va y avoir l'indifférence, c'est-à-dire les tenants de la foi sont plus ou moins indifférents de découvertes scientifiques, je ne généralise pas. Mais globalement, le schéma est le suivant, et les tenants de la science, voire du scientisme, dédaignaient un peu les questions religieuses. Après, il va y avoir une forme de dialogue et de retrouvailles, Et maintenant, on parle d'une forme d'intégration réciproque, notamment après le mouvement de la gnose de Princeton, par exemple. Nous ne l'avons pas dans notre pays, parce qu'il y a une forme de laïcité un peu drastique, mais par exemple, à Oxford, il y a une chaire de religion, de sciences et religions. Même si l'acronyme anglais, le NOMA, le Non-Overlapping Magisteria, nous ne sommes pas dans le même magistère, les deux magistères ne se recoupent pas, nous ne sommes pas dans le même registre épistémologique, mais ça n'empêche pas quand même de s'adonner à la science. La science nous dit comment est le ciel et la religion nous dit comment on va au ciel, en quelque sorte. Il n'est de description que scientifique du monde. Il ne peut être le monde décrit que scientifiquement, comme ça on colmate les brèches pour le charlatanisme, etc. Mais la science ne répond pas à tout. Il reste les questions du mystère, le mystère de la vie, les sempiternelles questions auxquelles l'homme est confronté, etc. Là, il y a moins de réticence à trouver des scientifiques, des physiciens, des atomistes, des biologistes et même des économistes, à s'intéresser au mystère de la foi aussi. Ça ne devrait pas, en principe, s'opposer. Si je prends encore 30 secondes, en réalité, sans vouloir classer les consciences dans des typologies, comme ça, dans des catégories, vous avez ceux qui disent de nihilo nihil, il n'y a rien de rien, rien ne procède de rien, il n'y a pas de création ex nihilo. Bon, il n'y a que le monde depuis toujours, ab eterno, voilà, la matière depuis toujours, avec la négation d'un être premier, c'est très bien, mais ça repose sur un postulat, qu'il n'est qu'une profession de foi. Vous avez ceux qui disent la dignité de l'homme est de ne pas abdiquer, de chercher la vérité toujours. « Vitamin pendere vero », disait le poète Juvenal. « Je chercherai ma vie durant la vérité. » Ce n'est pas parce qu'on m'a dit qu'il y a Dieu, etc., et à la fois que je vais croire aveuglément, et ce n'est pas parce qu'on me dit que ce n'est pas le cas que je vais accepter. C'est une position douloureuse, mais elle est admirable. La noblesse de l'homme, le génie de l'homme, de l'être humain, j'entends, et le fait d'aiguiser son entendement. On revient à l'histoire de Kant de tout à l'heure. Il faut raisonner par soi-même. On a besoin de maître, on a besoin de professeur, la relation de maître à disciple est merveilleuse, mais au moment où on doit concevoir le monde, réfléchir, etc., on réfléchit par soi-même. Enfin, il faut avoir cette audace intellectuelle. Et puis, il y a le troisième cas de ceux qui disent « Mais il y a tout de même une origine non mécanique à tous ces mécanismes. Il y a un être premier, une force suprême, une intelligence motrice, créatrice. Et je m'en remets. » On rentre maintenant dans des considérations de foi et de religion aussi. L'important, c'est de trouver une cohérence à tout ça. C'est vrai que ça apparaît une concurrence. J'ai même entendu quelques... Alors, je ne dis pas laïcard, ça n'a pas beaucoup de sens, mais peut-être laïciste avec l'idée que le « isme », le suffixe « isme » étouffe toujours la racine. Donc, le laïcisme n'est pas la laïcité. D'interdire le financement public de l'enseignement confessionnel sous contrat, arguant du fait que... c'est un choix libre, certes, mais il n'y a aucune raison que l'école publique ou les deniers publics subventionnent ou financent ce type d'enseignement. Et la réponse, c'est qu'il y a le droit et il y a la tradition ou l'héritage ou l'histoire. Et parfois, le droit est aussi tributaire de considérations historiques. Et ça donne lieu aussi à un compromis dans l'intelligence du moment. Dès lors qu'au bout de 5 ans, et suite à des contrôles et des inspections, l'enseignement dit libre, l'enseignement confessionnel, qui a comme valeur ajoutée par rapport à l'application du programme de l'éducation nationale, quelques apports de type confessionnel, la notion de contrat, de l'association sous contrat, c'est que les professeurs enseignent la partie programme éducation nationale, ben ça fait partie de l'État, de l'éducation nationale, d'une mission de l'État, et ce qui est en plus, ça doit être sous la partie dite privée du dit enseignement. Allez, je schématise un peu, ça ne se passe peut-être pas tout le temps comme ça, mais on rémunère, l'État rémunère les professeurs, les maîtres, pour la partie de l'enseignement éducation nationale. Ça donne lieu effectivement à une concurrence, et puis c'est en débat. Vous savez, une société, c'est un être vivant, dynamique, donc parfois c'est le droit qui la corsette, et qui même la fait évoluer, et parfois c'est le droit qui essaie de rattraper sa propre évolution. Donc, avec l'histoire du mariage pour tous ou des considérations de génie génétique, est-ce qu'il faut légiférer, il ne faut pas légiférer, etc.